est une course victorieuse. La vie chrétienne est une course victorieuse. Et j'aimerais vous donner quelques pensées sur ce sujet si important, afin que tous nous puissions, comme Paul, courir pour remporter le courir vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mais nous ne pouvons pas courir n'importe comment. La vie chrétienne, dans la bouche de l'apôtre Paul, est considérée comme une course, parce qu'il avait souvent sous les yeux les courses grecques dans les stades, et à force de voir ces choses, d'en entendre parler, eh bien, le Saint-Esprit lui a inspiré des pensées concernant justement la vie chrétienne qui est comparable à une course. Mais une course non pas de vitesse, mais un marathon. Il faut bien faire une petite différence qui est très importante dès le départ. La vie chrétienne n'est pas comparée à une course de vitesse, mais à un marathon. Un marathon, c'est-à-dire, c'est une course sur une longue distance, très longue distance, qui dure toute notre vie. Amen. La vie chrétienne n'est pas comparée à un 100 mètres ou un 200 mètres. Il y en a qui sont très forts là-dessus. Ils sont très forts aux 100 mètres, et aux 200 mètres, aux 400 mètres. Mais après, ils s'arrêtent malheureusement. Beaucoup commencent très bien leur vie chrétienne comme une course de vitesse. Mais au bout d'un certain temps, ils s'arrêtent. Et ils sont sur la touche maintenant. Que de chrétiens ont bien commencé. Leur départ a été fulgurant. Et allez voir, on s'est dit, oh là là, celui-là, certainement que Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Certainement que Dieu pourra faire de grandes choses. Mais nous constatons qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, ce même chrétien qui a bien commencé est sur la touche maintenant. Il a abandonné la course. Il a cru que la vie chrétienne était une course de vitesse, mais en fait, la vie chrétienne est un marathon. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un marathon? C'est une course de longue distance. Il y a des marathons de 40 km, je crois, je ne sais pas s'il y en a plus, mais enfin, c'est une course de longue distance. Et un marathon, vous ne commencez pas très vite au marathon, n'est-ce pas vrai? Quelqu'un qui commence le marathon, il ne commence pas comme quelqu'un qui fait un 100 mètres, parce qu'il n'irait pas loin. On commence le marathon très gentiment, n'est-ce pas? On va piano, et il y a un beau proverbe italien, je ne sais pas grand-chose en italien, mais un proverbe italien qui a une grande valeur, qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Excusez-moi l'accent, c'est sûrement pas le bon accent, mais l'important est la vérité qu'il y a derrière. Qui va piano va sano, celui qui va lentement va sûrement, et celui qui va sûrement va longtemps, longtemps. Amen. Et la vie chrétienne, nous devons le réaliser et comparer à cette course de marathon. Ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut encore bien finir. Amen. Beaucoup ont bien commencé, mais ont mal terminé. Mal terminé. Vous ne les voyez plus du tout maintenant. Et pourtant, ils étaient bénis. Ils ont bien commencé. Mais ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas compris qu'il fallait courir selon les règles pour remporter la victoire. Amen. La vie chrétienne est une course, mais une course de marathon. Amen. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comment remporter la victoire? Je vais vous donner cinq pas essentiels pour tout chrétien pour remporter la victoire. Pour aller jusqu'au bout, pour bien commencer et pour bien finir, surtout. Amen. Amen. Surtout pour bien finir. Pour cela, nous allons prendre quelques versets dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, et les derniers versets, versets 24 jusqu'au verset 27. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Chaque parole est très importante. Ne savez-vous pas, comme si certains sont ignorants, et oui, en effet, certains sont ignorants, ils sont ignorants que la course est un marathon. Ce n'est pas le tout de bien courir vite et de s'arrêter après. Ne savez-vous pas, et nous, le savons-nous, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié, ce serait le mot le plus juste, disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul était conscient que lui-même prêchant aux autres, il devait combattre selon les règles et il voulait finir sa course. Amen. Amen. Alors quelles sont ces 5 étapes toutes simples mais capitales pour notre vie chrétienne? 5 étapes très importantes si nous voulons remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La première étape est celle-ci. On la trouve au verset 24 finalement. « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Dans la première pensée de ce verset, il est dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade ?» Savons-nous que tous ceux qui courent dans le stade, du temps des Grecs, tous ceux qui couraient dans le stade devaient être essentiellement des Grecs. Aucun étranger ne pouvait courir dans un stade. Il fallait qu'il soit d'origine grecque. Il fallait qu'il prouve qu'il ait la nationalité grecque. Il fallait donc qu'il soit qualifié. Avant de courir, il faut être qualifié, vous êtes d'accord avec moi? Pour les Olympiades, tout le monde n'est pas qualifié. Tous ceux que nous voyons aux Olympiades, ce sont ceux qui ont été qualifiés. N'importe qui ne peut pas courir. On peut être religieux et ne pas être qualifié. Quels sont ceux qui sont qualifiés pour courir afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Alors premièrement, ce sont les qualifications pour la course. Il faut être qualifié. Et dans le cas des athlètes grecs, ils devaient prouver qu'ils étaient de nationalité grecque. Sinon, ils ne pouvaient pas courir. Aucun étranger ne pouvait courir. Il fallait qu'ils soient grecs. Alors pour nous, quelle est donc la nationalité? Quelles sont donc les qualifications que nous devons avoir pour prendre la ligne de départ? Pour prendre la ligne de départ, quelle est donc cette qualification? Être sauvé, être né de nouveau. Amen. Ah, il fallait dire amen un peu plus fort. Amen. Si vous êtes des athlètes, si vous voulez courir, il faut être plus convaincant que cela et plus convaincu. Amen. Amen. Premièrement, les qualifications pour la course. N'importe qui ne pouvait pas courir. Et au milieu de nous et dans ce monde, n'importe qui ne peut pas courir cette course. Il faut être qualifié. Il faut être né de nouveau, il faut être sauvé. Amen. C'est Jésus qui a dit à Nicodème, vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3, verset 7, Jésus a dit à Nicodème, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il dit cela à Nicodème, un docteur religieux, un docteur selon la loi, qui enseignait la religion aux autres. Il enseignait la religion aux autres, mais il n'était pas sauvé lui-même. Il n'était pas né de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur a dû le secouer un petit peu. Il lui dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. N'importe qui te dirait, oh là là, tu es Nicodème, un homme exceptionnel, certainement un homme irréprochable selon la loi. Puisqu'il enseignait les autres, il devait être un exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Il vivait donc une vie morale, une vie honnête. Ce n'était certainement pas un voleur, il faisait du bien, il enseignait les autres. Enfin, il avait une moralité parfaite. Et pourtant, Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je te dis là. Il faut que tu naisses de nouveau. » Il faut, soulignez bien cela, il faut, c'est un impératif. Si tu veux courir la course, il te faut d'abord être qualifié. Et ta religion, tu es pharisien, mais ta religion ne te qualifie pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ont une religion, ou la religion du papa ou de la maman, du grand-père ou de la grand-mère, ils pensent qu'ils sont qualifiés pour courir la course. Être récompensé lorsque Jésus reviendra. Non, mon ami, ce n'est pas du tout cela. Ta religion ne te qualifie pas. Aucune religion ne nous qualifie. Si Nicodème pouvait être qualifié, alors lui, il pouvait l'être, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui pouvait être qualifié, c'était bien Nicodème. Mais il n'était pas qualifié. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas sauvé. Alors la question qui se pose à nous tous, une question très importante, ce n'est pas le tout de dire, moi, mes parents sont chrétiens, ils ont telle religion chrétienne, alors tout va très bien avec moi, je pratique ma religion, je vais à l'église, enfin pas tout le temps, de temps en temps, mais enfin, mais quand même, c'est la religion de mes parents, je la garde, même s'ils n'y vont pas à l'église, ils gardent quand même leur religion, on se demande à quoi elle sert d'abord. Mais, vous voyez, mais ils sont attachés, ils pensent qu'avec cela, ils seront un jour sauvés, qu'ils seront qualifiés. C'est là la plus grande erreur. Et c'est là ce que Paul voulait dire. Si nous voulons courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, il faut être qualifié. Il faut avoir l'assurance de son salut. Alléluia. L'apôtre Jean lui-même le disait, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Amen. As-tu l'assurance de la vie éternelle? Avez-vous remarqué, d'une manière générale, les gens religieux n'ont pas d'assurance, n'ont pas l'assurance de leur salut? Quand vous dites à une personne religieuse, tu sais que moi j'ai l'assurance de mon salut, vous savez ce qu'elle dit cette personne? Tu es un petit orgueilleux. Qui peut avoir l'assurance de son salut? Tu es un orgueilleux. On nous prend pour des orgueilleux? Parce que justement, ils ne sont pas passés par cette nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous lorsque nous naissons de nouveau rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu veux courir, il faut être qualifié. Et la qualification, c'est l'assurance. L'assurance d'être sauvé. Si tu meurs maintenant, as-tu l'assurance de ton salut? Amen. As-tu cette assurance-là? Si tu ne l'as pas, alors aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Le mot de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Et le mot du diable, c'est toujours demain. Demain, pas aujourd'hui. Oh là là, il ne faut pas être trop ému, hein. Pas être... Non, doucement. Demain. Demain arrive, qu'est-ce qui se passe? Une autre voix, la même voix est encore là. Demain. T'es encore sous le coup de l'émotion. Calme-toi. Demain. Le lendemain arrive, on veut prendre la décision. Non. Réfléchis quand même. Demain. Et c'est ainsi que le diable remet toujours au lendemain la décision que nous devons prendre aujourd'hui lorsque le Saint-Esprit nous parle. Amen. As-tu l'assurance de ton salut? Es-tu né de nouveau? Et comment peut-on naître de nouveau? Premièrement, tu dois réaliser que tu es perdu. À une personne religieuse, c'est très difficile de lui faire admettre qu'elle est perdue. N'est-ce pas vrai? Très difficile. Comment, moi, perdu? J'ai ma religion. Non, si je pratique ma religion, de près ou de loin, je serai quand même sauvé. Une personne religieuse n'a jamais été convaincue de péché, n'est-ce pas vrai? Elle ne connaît pas son propre cœur. Elle a beaucoup de peine à admettre qu'elle est perdue. C'est le point de départ. Si tu veux être sauvé, il faut que tu réalises que tu es perdu. N'est-ce pas vrai? C'est la logique même. Si on veut être sauvé, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est tout simple. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. As-tu réalisé que tu es perdu? Que tu mérites le châtiment de Dieu? Et réalises-tu que devant Dieu, tu ne peux te sauver toi-même? Premièrement, réalise que tu es perdu. Deuxièmement, réalise que tu mérites le châtiment de Dieu. Que tu mérites le châtiment de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais le salaire du péché, c'est la mort. En général, les gens religieux divisent un peu les péchés. Ils parlent de péchés véniels, de péchés mortels. Vous êtes d'accord avec moi? Alors bien sûr, ils ne commettent jamais des péchés mortels. Ils commettent toujours des péchés véniels, soi-disant. Mais est-ce que la Bible parle de péchés véniels et de péchés véniels? La Bible ne parle jamais de péchés véniels. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible parle de péchés mortels. Le plus petit péché est mortel aux yeux de Dieu. Et nous sépare de Dieu. Car Dieu est un Dieu saint. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le Dieu 3x5 comme cela. Et si un jour nous voulons, si tu veux aller au ciel, il te faut être purifié de tes péchés. Et il n'y a rien d'autre qui purifie tes péchés que le sang précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Mais tu mérites le châtiment de Dieu. As-tu compris cela? Que tes péchés méritent le jugement de Dieu et que tu ne peux rien faire pour être sauvé. Tu n'es pas absolument rien. Ni ton argent, ni tes prières, ni tes larmes, ni ta religion, ni tes souffrances ne peuvent te sauver. Tu peux faire des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres ne te sauveront pas. Tu peux souffrir, faire du bien aux autres. Tout cela ne te sauvera pas. C'est Jésus qui sauve. Amen. C'est son sacrifice sanglant et parfait à la croix qui nous délivre de nos péchés et de la mort éternelle. Comment être né de nouveau? Premièrement, réalise que tu es pécheur. Deuxièmement, réalise que tu mérites la juste condamnation de Dieu à cause de tes péchés. Tu dois dire, Seigneur, je mérite la condamnation, le jugement, la perdition éternelle. Et c'est à ce moment-là, au moment où tu réalises que tu es perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même, alors Dieu te dit, maintenant, regarde à la croix. Regarde à la croix, Jésus qui est mort. Et la parole de Dieu dit, le prophète Isaïe nous dit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous méritions le jugement et la condamnation et la séparation éternelle de Dieu, car Dieu est juste. Mais Dieu est bon aussi. Dieu nous aime aussi. Et il nous dit maintenant, regarde à la croix. Je dois juger le péché. Si ton péché n'est pas jugé, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Mais regarde à la croix, là Jésus a porté ton jugement. Alléluia. La parole de Dieu dit, Christ a souffert une fois pour nos péchés, lui le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Regarde à la croix en considérant que Jésus est mort à ta place. Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste pour moi, pour toi injuste, afin de nous amener à Dieu. Amen. Alors ainsi, quand tu regardes la croix, tu réalises que Jésus est mort comme ton sauveur. Pas seulement Jésus est le sauveur du monde, mais il est mon sauveur. Alléluia! Il est mort à ma place. Il a porté mes péchés, mon jugement, ma culpabilité éternelle. Il l'a subi à la croix. Alléluia! Et lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli », cela voulait dire « J'ai payé ta dette ». Si tu mets ta confiance en moi pour le pardon de tes péchés, je pardonne ta dette que tu ne pouvais jamais payer et que tu ne pourras jamais payer. Je pardonne, je remets ta dette. Amen. Non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, l'innocent qui est mort pour nous coupables, le Fils de Dieu qui est mort pour nous pécheurs, le juste qui est mort pour des injustes. Alléluia! Il est le sauveur du monde. Il veut être ton sauveur. Je suis perdu, je mérite le châtiment. Mais Jésus a porté mon châtiment. Quelle bonne nouvelle. Amen. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quatrièmement, je dois me repentir de mes péchés. Car ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. N'est-ce pas vrai? Et quand on vient au pied de la croix, c'est toujours en demandant pardon pour ses péchés, ses passions, sa rébellion, ses idoles. Qui que tu sois, lorsque tu viens au pied de la croix, tu dois venir dans la repentance et dans les larmes, réalisant que tu as offensé la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, et que ta vie a déshonoré Dieu jusqu'à présent. Et lorsque tu viens au pied de la croix, c'est pour lui dire « J'ai honte de moi-même ». J'ai fait un fiasco de ma vie. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur. J'ai suivi des idoles. J'ai suivi une religion morte. J'ai fait des œuvres pour me sauver. Mais cela ne sert à rien. Je viens dans la repentance, dans la honte. Te diront, Seigneur, pardonne mes péchés qui t'ont déshonoré, qui t'ont cloué à la croix. À partir de maintenant, je me repens. Et j'abandonne mes péchés, mes idoles, mes passions, ma vaine religion. Je l'abandonne pour te suivre, toi et toi seul. Amen. Mes amis, beaucoup de gens aujourd'hui croient au Seigneur. Beaucoup de gens sont dans les églises. Ils disent croire au Seigneur Jésus comme leur sauveur, mais leur vie n'est pas changée. Il n'y a aucun changement. Aucun changement! S'il n'y a aucun changement, c'est qu'il n'y a pas de vraie conversion. C'est qu'il n'y a pas de nouvelle vie, de nouvelle naissance et pas de repentance. Quand quelqu'un se repent véritablement, il abandonne son péché et son passé et sa rébellion au pied de la croix. Et il dit à partir de maintenant, je veux vivre une vie nouvelle. Tu ne peux pas vivre deux vies, ta vie et encore, et la vie avec le Seigneur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi tu dois venir à lui dans la repentance en disant « Seigneur, je m'humilie devant toi. J'ai péché devant toi. J'abandonne ma vie passée et ma religiosité. J'abandonne tout cela et je me tourne vers toi pour vivre une vie nouvelle, pour te recevoir dans mon cœur. » Et pour faire ta volonté. Quatrièmement, c'est se repentir, abandonner son péché, ses passions. Et cinquièmement, c'est recevoir Christ dans sa vie. La parole de Dieu dit, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! sont chrétiens non pas ceux qui confessent Jésus, mais qui le possèdent dans leur cœur. Alléluia! Et on ne naît pas chrétien, on le devient par la repentance et par la foi en Jésus-Christ, comme son sauveur et son maître absolu. Et lorsqu'on le reçoit dans notre cœur, le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous à ce moment-là et nous sommes nés de nouveau. La vie de Dieu, la vie céleste vient en nous. Nos désirs sont changés. Nous désirons maintenant faire la volonté du Seigneur et non plus la nôtre. Cette vie aime la vie de Dieu, aime la parole de Dieu, aime tout ce qui vient de Dieu et déteste tout ce qui est du diable, du monde, tout ce qui est sale, impur, idole. Cette vie divine déteste tout cela parce que c'est la vie même du ciel. Alléluia! Es-tu né de nouveau? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu l'assurance de ton salut? C'est la première qualification. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, cette assurance. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Premièrement, qualification. Pour courir, il faut être sauvé. La religion ne suffit pas. Amen. Ne mets jamais ta confiance dans ta religion. Seul Jésus sauve. Et il faut passer par la conversion, par la nouvelle naissance. As-tu fait cette expérience sans laquelle nul ne peut être sauvé? Maintenant que tu as fait cette expérience, alors nous allons aborder la deuxième étape. Maintenant, tu es sur la ligne, tu peux prendre le départ. Comme les athlètes grecs, aucun d'entre eux ne pouvait prendre le départ s'il n'était pas grec. Amen. Personne, le juge était là pour vérifier, attention. Il passait d'abord au contrôle. N'importe qui ne pouvait pas courir comme cela. Il fallait qu'il donne des assurances, des certitudes, qu'il était grec. Il n'y avait pas question de tromper qui que ce soit. Nous pouvons même tromper des hommes ici-bas, mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu. Amen. Tu peux nous tromper peut-être et nous dire « Oui, moi je suis chrétien, je suis converti, tout ça, je suis né de nouveau. » Et ce n'est pas vrai. Tu dis cela pour faire plaisir à ta femme, à ton mari, à ton père, à ta mère, à ta grand-mère. Non, mon ami, tu peux tromper les hommes ici-bas, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. As-tu l'assurance de la vie éternelle? C'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps, mes amis. Le plus grand des miracles est la guérison de l'âme, le salut de l'âme. La nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ, c'est le plus grand des miracles. Amen. Alléluia. Tu peux aller au ciel avec un corps malade, mais tu n'iras jamais au ciel avec une âme malade qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus. Jamais. Deuxième pas vers la victoire maintenant. Alors notre ami, il est là. Il est maintenant, il a l'assurance du salut, mais maintenant il prend le départ. Alors au verset 24, nous allons trouver une deuxième vérité. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Un seul remporte le prix. Alors bien sûr, dans une course terrestre, il n'y a qu'un vainqueur, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que chrétiens maintenant, en tant que nés de nouveau, nous pouvons tous remporter la victoire. Chacun d'entre nous, si nous sommes fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, si nous sommes attachés à sa parole et que nous n'avons pas honte de lui, nous remporterons la victoire. Tu remporteras la victoire. Alléluia. Chacun peut remporter la victoire. Mais quelle est cette deuxième étape? Mais qu'un seul remporte la victoire. Courez de manière à le remporter, ce prix. Alors là, il y a une deuxième vérité importante. Courez de manière à le remporter. Voyez, on ne court pas n'importe comment. Vous êtes d'accord avec moi? On ne dit pas le coureur, l'athlète qui court, dit, oh, bah, j'espère qu'aujourd'hui ça va marcher, ça. J'espère que ça va aller. J'ai pas bien couru ces derniers temps, mais enfin, peut-être que ça ira. Avec la chance, ça ira et tout ça. Vous croyez qu'un athlète parle comme ça? Non. S'il parle comme ça, il n'y arrivera pas du tout. Courez de manière à le remporter. Deuxième étape, c'est celle-ci. C'est la détermination. détermination à gagner la course. D'accord ? Il est déterminé à gagner la course. Premièrement, les qualifications pour la course. Et maintenant, la détermination à gagner la course. Il faut qu'il soit décidé à remporter la victoire. Amen. Et là, j'ai noté une pensée importante. Nous la trouvons dans 2 Timothée 2, 4. Vous savez, quand Paul dit aussi, l'athlète n'est pas... L'expression « selon les règles » est très importante ici dans le texte grec. « Selon les règles », qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le texte grec, la phrase « suivant les règles » en grec décrit plutôt un athlète professionnel qu'un amateur. Il est question ici d'un athlète professionnel et non pas d'un amateur. C'est l'homme qui consacre toute sa vie dans sa course. Ce n'était pas pour lui un passe-temps. Il est question ici d'un professionnel qui met toute sa vie, toute son énergie, toutes ses forces, tout son temps dans sa course. Pour lui, c'est une question de vie. Un professionnel, il travaille non pas pour un passe-temps, mais comme quelque chose qui prend tout son temps. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'entre nous, nous courons comme des amateurs, comme un passe-temps. La vie chrétienne, pour beaucoup, c'est un passe-temps. Oh, il faut bien suivre le Seigneur, mais il ne faut quand même pas exagérer. Voyez-vous, un petit peu, oui, mais pas trop quand même. Un petit passe-temps, un petit moment. Ah oui, venir aux réunions, c'est beau, c'est bien. On chante, on prie, c'est bien. Mais après, laissez-moi tranquille. Moi, après, j'ai ma petite vie. Il ne faut pas exagérer. C'est bien. Oh, vous savez, je suis très bien quand je suis avec vous. C'est merveilleux. On chante, c'est beau, c'est merveilleux. Mais c'est que pour un temps, ça. Un amateur, la course, pour lui, c'est un passe-temps. Amen. C'est un passe-temps. Alors oui, d'accord, mais... pas toujours. Tandis que le professionnel, c'est quoi? Est-ce que c'est un passe-temps pour lui, la course? Non. Il y a mis toute sa vie. Il y a mis toute son énergie. Il y a mis tout son être. C'est là la différence entre un professionnel et un amateur. L'un, c'est seulement pour de temps en temps, tandis que l'autre, c'est tout le temps. Amen. Tout le temps. Il se donne entièrement à ce qu'il fait. Et un chrétien, s'il veut remporter la victoire, il doit se donner entièrement à sa foi. Amen. Il ne faut pas que sa foi soit un passe-temps agréable et encore à côté faire ce qu'il veut. Non, mon ami, il y en a trop comme cela qui se font des illusions et ils espèrent remporter la victoire. Ce n'est pas vrai. Nous devons courir comme des professionnels. Selon les règles, c'est-à-dire d'une manière professionnelle. Il met tout son être. Certains disent, oh oui, mais nous, monsieur, quand même, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est pour les pasteurs, ça. C'est pour les évangélistes, les missionnaires. Oh oui, eux, d'accord. Eux, c'est en plein temps pour le Seigneur. Mais nous, quand même, moi, une petite ménagère, une petite étudiante, un petit ouvrier, tout alors, c'est pas pour nous, ça. De temps en temps, oui, à l'église, on chante Alléluia, Amen, tout ça. Oui, on parle une fois comme ça du Seigneur, mais ce n'est pas tout le temps pour nous, ce n'est pas ça. Ah, ça t'intéresserait de faire comme cela? Tu veux faire l'amateur et tu veux gagner la course en plus? Et tu veux encore le prix? Parce que ces gens-là, ils sont exigeants. Pour un gramme d'exemple, ils veulent une tonne de bénédiction. Un gramme d'obéissance, je veux dire. Un gramme d'obéissance, ils veulent une tonne de bénédiction. C'est pas comme ça que ça marche. La détermination. Êtes-vous déterminé à remporter la victoire? Comment est-ce que vous courez? Comme un amateur? Un passe-temps? Alléluia, tout va bien. Mais quand les choses se gâtent un petit peu, quand il faut se sacrifier un petit peu, il n'y a plus rien du tout. Mais un professionnel, il met toute sa vie. Amen. Il met toute sa vie. Il court selon les règles. Pour lui, glorifier le Seigneur, c'est une question de vie. Amen. Êtes-vous décidé? Courez-vous comme un professionnel? Est-ce que votre cœur est tout entier dans ce que vous faites? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Si nous l'aimons comme ça, il n'y a pas de place pour autre chose, n'est-ce pas vrai? Pas de cœur partagé. Si nous suivons le Seigneur, il faut le suivre d'une manière entière, totale. Amen. Et vous serez étonné de voir comment Dieu peut utiliser une personne, même qui ne sait pas grand-chose, mais qui se donne entièrement à lui. Vous serez étonné de voir ce que Dieu peut faire par une personne toute simple, mais qui est entièrement à son Dieu. Qu'une personne qui a beaucoup de talent, mais dont le cœur est partagé. Qui a beaucoup de connaissances, mais dont le cœur est partagé. Un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur, ça ne marche pas. Un professionnel, il se donne 100%. Amen. Et c'est comme ça qu'il peut remporter la victoire. Troisièmement, Hébreux 9, 20, 1 Corinthiens 9, 25, il est dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible. Tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. » La troisième étape pour remporter la victoire, c'est la discipline pour gagner la course. Amen. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Vous avez vu un athlète, un vrai athlète courir? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, qu'il fasse neige, il sort. Il ne reste pas dans sa chambre. Il sort. Il met son survêtement, il s'habille bien, mais il sort. Et s'il ne le fait pas tous les jours, il ne peut pas espérer remporter la victoire, n'est-ce pas? Tandis que l'amateur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait beau, oh formidable, vous le voyez courir. Mais dès qu'il pleut un petit peu, il n'y a plus personne. Oh, il fait trop froid aujourd'hui. Non. Hop, directement sous ses draps, puis il est tranquille. Et puis il espère remporter la victoire. Ah oui, c'est un idéaliste. Il a beaucoup d'idées. Ah oui, il espère que ça va marcher. Il espère, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas des bonnes idées qu'il faut, c'est des bonnes décisions. Amen. C'est des bonnes décisions. Qu'il pleuve ou qu'il vente, l'athlète, le professionnel sort. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Il n'y a pas de couronne sans croix, mon ami. Si tu veux être couronné, tu dois porter ta croix. Amen. Il n'y a pas de couronne sans croix. L'amateur, lui, ne veut pas la croix, mais il veut la couronne. Tandis que le professionnel, lui, il a sa croix, mais il aura la couronne aussi. Pas de couronne sans croix, la discipline. La discipline, il s'impose toute espèce d'abstinence. Ne fais pas comme l'autre qui fait n'importe quoi et qui se dit chrétien, mais il ne remportera pas le prix. Imite ceux dont la foi est réelle, authentique. Ne regarde pas aux faux chrétiens, regarde aux vrais. Paul disait souvent, ayez le regard sur nous, imitez notre foi, imitez ceux qui par la foi et la persévérance hérite les promesses. Quatrième étape, ce sont les dangers de la course. Vous savez que dans une course, il y a des dangers. Nous trouvons ces dangers dans Galates, chapitre 5, verset 7. Galates 5, 7, il est dit, vous courriez bien, ah voilà la course ici, n'est-ce pas? Vous courriez bien. Et même dans le texte grec, il est dit, vous courriez si bien. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Et dans le texte grec, ce n'est pas arrêté. Qui vous a fait retourner en arrière? C'est un retour en arrière. Et pourquoi il retourne en arrière? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché ce qui met le trouble parmi vous? Et quel était ce trouble? Juste un peu au-dessus, il est dit, au verset 2. Moi, voici Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire que c'était la fausse doctrine. Les dangers de la course, ce sont l'influence des fausses doctrines. Ici, la fausse doctrine, c'était le salut par les œuvres. Les Galates avaient bien commencé par le salut avec la foi, par grâce, et maintenant, ils voulaient continuer avec le salut par les œuvres, c'est-à-dire se faire circoncire pour plaire à Dieu. Ils pensaient qu'on est sauvé par la foi, mais aussi par les œuvres, par la circoncision. Voyez-vous, ils ajoutaient quelque chose au salut. C'était le salut par les œuvres. Et Paul leur dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une mauvaise influence. Ce n'est plus la vérité. Ce sont des fausses doctrines. Mes amis, écoutez-moi bien. On ne peut rien ajouter à la foi, n'est-ce pas vrai? On est sauvé par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez-moi bien. Les dangers de la course, ce sont les influences des fausses doctrines. Il n'y a pas que cette fausse doctrine. Beaucoup de chrétiens tombent dans les fausses doctrines. Ils ne vérifient pas si ce qu'on leur dit est vraiment biblique, si ce qu'on leur dit a été prêché par les apôtres, enseigné par les apôtres. On vous dit n'importe quoi en prenant un texte dans l'Ancien Testament et tout cela, et parce qu'on peut dire, on peut faire dire la Bible ce qu'on veut. Mais ce qu'on vous dit doit avoir été enseigné par les apôtres, par notre Seigneur et par les apôtres, et pratiqué par eux. Si cela n'a pas été un enseignement enseigné et pratiqué par les apôtres, c'est une fausse doctrine. Même si c'est une nouvelle révélation, Dieu ne donne jamais de nouvelles révélations qui contredisent la parole de Dieu. La révélation de Dieu est parfaite dans la Bible. Amen. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Il y en a assez ici dans la parole. La révélation est totale et complète dans sa parole. Nous devons veiller à cela. Beaucoup ne remporteront pas le prix. Beaucoup sont sur la touche à cause de l'influence des mauvaises doctrines. Mes amis, nous devons faire attention à ce que nos cœurs soient attachés à la saine doctrine. Amen. Et comme les chrétiens de Bérée, nous devons vérifier tout ce qu'on nous dit pour voir si c'est conforme à l'enseignement des Écritures. Amen. Cela est très très important. Comme les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était conforme. Paul et Silas enseignaient, était conforme aux Écritures. Voyez-vous, on doit même tester le ministère d'un apôtre. Les chrétiens de Bérée testaient l'enseignement apostolique de Paul. Et la parole de Dieu les approuvait. Même si quelqu'un se dit apôtre, cela ne veut pas dire que nous devons accepter tout ce qu'il dit, sans rien réfléchir. Oh, vous savez, c'est un grand homme de Dieu. Peu importe. C'est peut-être un grand homme de Dieu, mais il faut tout vérifier dans la parole. Et si ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas un grand homme de Dieu. Les dangers de la course, l'influence des fausses doctrines, vous couriez si bien, disait-il. Et pourquoi vous retournez en arrière maintenant? Pourquoi vous retournez? Cette influence ne vient pas de Dieu. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? À la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Toutes ces fausses doctrines ne nous libèrent pas, au contraire, nous rendent esclaves. Seule la parole de Dieu nous libère. Alléluia. Je termine. Cinquième étape. La cinquième étape, c'est la belle étape. Si vous avez couru jusqu'à présent, l'apôtre le dit. Non, je ne suis pas là. 1 Corinthiens 9, il a dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Cinquième étape. La récompense de la course. Il y a la récompense maintenant. Si tu cours selon les règles, selon la parole de Dieu, tu auras une récompense. Et cette récompense, c'est une couronne incorruptible. Et comment obtenir cette couronne incorruptible? Je ne vais pas être long maintenant, mais je vais vous donner deux pensées importantes. Si nous gardons cette pensée devant nous, nous obtiendrons cette couronne incorruptible. Nous devons, parce qu'il est dit, l'apôtre dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Premièrement, si nous voulons remporter la course et avoir la couronne incorruptible, nous devons tout faire pour la gloire du Seigneur. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu, non pas pour nous-mêmes. Il y en a combien qui courent pour eux-mêmes, pour faire un nom, pour faire des titres. Quand vous les voyez, ils se prêchent eux-mêmes, et l'apôtre le disait. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia! Tu risques de courir en vain si tu te prêches toi-même. Il y en a beaucoup qui ne servent pas le Seigneur. Ils se servent du Seigneur pour leurs intérêts personnels. Tu seras disqualifié un jour. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Comment obtenir cette couronne incorruptible? Je dois tout faire dans mon service pour le Seigneur, dans mon travail pour le Seigneur. Je dois tout faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Rien pour moi. Tout pour toi, Seigneur. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Nous devons veiller à cela. Veillez jalousement, mes amis. Veillez jalousement quand Dieu vous utilise, quand vous remportez des courses, des victoires. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. Beaucoup sont tombés à cause de l'orgueil. Beaucoup sont sur la touche maintenant et n'auront jamais le prix de la victoire à cause de l'orgueil. Cet orgueil caché en eux, ils se croient supérieurs aux autres. Quand vous les voyez, ils vous regardent toujours de haut comme cela. Ils sont toujours supérieurs aux autres. Alléluia. Si tu veux la couronne incorruptible, cette couronne te sera donnée si tu fais tout pour la gloire de Dieu et rien pour toi. Amen. Veille à tes motifs. Veille à ce que tu penses au plus profond de toi-même. Veille. Fais attention. Ne le fais pas pour te montrer, pour montrer qui tu es, combien de dons tu as, combien de dames tu as amenées au Seigneur. Combien tu as fait ceci et cela? Attention! Pourquoi travailles-tu? Pour qui cours-tu? Cours pour la gloire du Seigneur. Donne toujours la gloire à Dieu et tu remporteras victoire sur victoire. Et deuxièmement, je termine maintenant. Premièrement, nous devons toujours donner toute la gloire à Dieu. Et deuxièmement, tout ce que nous faisons pour les hommes, nous devons le faire, nous devons tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen! Je répète, très important, parce que beaucoup d'entre nous, quand nous faisons quelque chose pour les hommes, nous le faisons pour les hommes, pas vraiment pour le Seigneur. Et voilà pourquoi il n'y aura pas de récompense. Mais la Bible dit, je donne ce dernier verset, Colossiens 3, 23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Voyez-vous la récompense là? Elle est là, la récompense. Elle est là, la récompense est là pour ceux qui font, qui travaillent. Merci, Seigneur. Qui font l'œuvre du Seigneur. Non comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Même si vous travaillez pour les hommes, ne faites pas le travail pour les hommes. Faites-le pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, et vous aurez la récompense. Beaucoup travaillent comme pour les hommes. Quand tant que ces hommes les applaudissent, tant que ces hommes les encouragent, tant que ces hommes les approuvent, ils travaillent. Mais le jour où il y a la contradiction, le jour où ça ne va pas, le jour où il y a la désapprobation, on ne fait plus rien du tout. Plus rien du tout. Pourquoi? On travaille pour qui? Pour l'homme ou pour le Seigneur? Faites tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si on fait tout comme pour les hommes, on ne va pas faire grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Il y aura toujours quelque chose. L'autre, il y aura toujours quelques petites choses, mais nous devons tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et nous obtiendrons du Seigneur la récompense. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je vais terminer là. Voilà maintenant ces 5 points que le Seigneur puisse vraiment nous donner de réaliser tout cela et que nous puissions courir pour remporter la victoire. Amen. Ne courez pas comme un amateur. Quand ça vous arrange, quand vous avez envie, il n'est pas question de cela. Un professionnel, c'est autre chose. Envie ou pas envie, il court. C'est toute sa vie chrétienne, prend toute sa vie. Il n'est pas chrétien seulement à l'église. Il est chrétien à l'église. Il est chrétien à la maison. Il est chrétien au travail. Il est chrétien dans la rue. Il est chrétien partout. Mais beaucoup de gens sont chrétiens seulement à l'église. À l'église, quand vous les entendez prier, ils prient comme des anges. À la maison, ils vivent comme des démons. Comme des démons. Et au travail, comme des petits diables. Puisse le Seigneur nous donner d'avoir cette mentalité du professionnel et de l'athlète pour glorifier le Seigneur et remporter la victoire. Amen. Courons pour remporter la victoire. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous accordera tous la récompense en héritage. Amen. Persévérons, persévérons, persévérons. L'athlète persévère jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Amen. Courbons-nous dans la prière.